France Culture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Sacha Mattei, Quentin Péchard, Barthélémy Gaillard, Fanny Richer et Pénélope Lemoguen, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Paul Guigue. Comme chaque vendredi, une émission en deux parties. Un retour de Cuba avec le journaliste Jean-Philippe Rémy qui raconte une île en crise, asphyxiée par les pénuries et dont la situation s'est aggravée depuis la chute de son allié vénézuélien Nicolas Maduro. Et puis dans la table ronde d'actualité, direction le Japon, où le parti conservateur de la première ministre Sanae Takaishi se maintient finalement au pouvoir après avoir triomphé aux législatives. Quelle vision défend-elle pour l'avenir du pays et aura-t-elle les moyens de tenir ses promesses? Nous en discuterons avec nos invités, Guy Bourg-de-Lamotte, professeur en sciences politiques au département Japon de l'INALCO, et César Castelvi, sociologue, maître de conférences à l'Université Paris-Cité et membre du Centre de recherche sur les civilisations de l'Asie orientale. Une discussion co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du journal Le Monde.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Et pour commencer, place au retour de terrain. Bonjour Jean-Philippe Rémy.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter au journal Le Monde. Vous revenez de Cuba, le pays où tous les regards se sont portés après l'opération états-unienne au Venezuela. Combien de temps le régime castriste pourra-t-il tenir sans l'aide de son allié? Nul ne le sait, mais ce qui est certain, en revanche, c'est que la vie quotidienne ne va pas s'améliorer pour les habitants à La Havane, dans les campagnes de l'Ouest et les petites villes du centre que vous avez sillonnées à vélo avec le photographe Lucien Lung. Vous racontez ce quotidien empoisonné par les pénuries, nourriture, essence, médicaments, tout manque, même la compagnie des proches. 2 millions de personnes sont partis depuis 2021. Le parti, quant à lui, n'a renoncé ni à la doctrine, ni à la surveillance. Et vous êtes à La Havane le matin du 3 janvier. Le monde, ce jour-là, se réveille stupéfait après l'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro par les forces spéciales états-uniennes. Comment l'événement est-il vécu à Cuba ?
Je pense que c'est un jour où il y a eu vraiment... L'attente était évidemment que la population réagisse, que le pouvoir, évidemment, perdant son allié en la personne du président vénézuélien, deux pays qui sont dans un grand rapport de proximité, qu'il y ait des manifestations, que quelque chose se produise, quelque chose se passe. Et en réalité, la ville reste dans une forme d'apathie absolument terrible et révélatrice. Une manifestation a été organisée en quelques heures devant l'ambassade des États-Unis, en droit classique, pour protester contre l'impérialisme, crier des slogans comme ça. Mais on voit bien que cette ville, la capitale, est restée complètement inerte parce qu'elle est tout à fait absorbée par juste la survie au quotidien, par la difficulté qu'il y a à réaliser des choses très simples de tous les jours. Et puis je crois qu'il y a une forme de lassitude aussi qui s'est lue à travers le fait de pas avoir mobilisé des foules monstres, même si c'était au pied levé. Mais enfin, cette nouvelle incroyable, j'avais l'impression de donner plus d'émotion dans le reste du monde que ça n'en donnait à La Havane, ce qui est quand même assez fou.
Des slogans anti-impérialistes récités poussivement, dites-vous, dans cette manifestation que vous couvrez, des manifestants qui ont aussi été conviés par bus. Et ça, c'est révélateur aussi parce que se déplacer aujourd'hui à Cuba, c'est devenu un luxe, c'est devenu très compliqué. L'accès à l'essence, notamment, du fait de l'accès à l'essence qui est extrêmement rationné. Et là, effectivement, la chute de Nicolas Maduro, qui fournissait à Cuba un pétrole à bas coût, risque d'aggraver ce phénomène que vous avez déjà observé.
Voilà, l'idée d'aller à Cuba a germé il y a plusieurs mois parce qu'il y avait déjà une situation qui était incroyable. Il y avait déjà des restrictions de beaucoup de sortes, et notamment des restrictions dans la distribution d'électricité. Il y a des coupures monstres. Or, un pays qui est en difficulté sur beaucoup de choses, il restait l'électricité pour faire tourner des petits appareils pour faire de la soudure dans les endroits où les gens travaillent chez eux, pour faire tourner des congélateurs quand ils veulent stocker de la nourriture qui n'est pas facile à trouver, qui arrive souvent sous forme congelée lorsqu'il s'agit de viande par exemple. Donc dans ce contexte, ça fait plusieurs mois déjà que la crise qui a démarré en 2021 est d'une gravité extrême. Les effets sur la population devenaient complètement effarants. Et Cuba a passé un petit peu à l'as parce que dans le grand fracas géopolitique mondial, personne ne regardait Cuba comme on l'aurait regardé, je pense, dans d'autres circonstances il n'y a pas si longtemps. C'est quand même un endroit intéressant et important. Là, c'est vrai qu'on a passé tout à fait une ligne avec l'intervention américaine qui signale clairement, là, pour le coup, la volonté affirmée, pas simplement déclamatoire, d'obtenir la chute du régime. Mais tout ceci vient s'ajouter donc à ce que je décrivais. Donc les pénuries qui sont le fruit de l'embargo américain un peu, l'impéritie du gouvernement aussi, un contexte général où le Venezuela avait de moins en moins la capacité, lorsqu'il en donnait encore, d'envoyer de l'essence et des produits pétroliers à Cuba.
Bref, la crise du Covid, la chute du tourisme aussi.
Le Covid a été un moment de un grand tournant pour plein de raisons et a précipité la chute économique de ce qui était un système déjà chancelant. Mais là, maintenant qu'il n'y a plus une goutte d'essence, plus une goutte de produits pétroliers en général qui arrive à Cuba, que les États-Unis ont mis clairement avec un décret du président Trump disant que tout pays qui enverrait, il y a des pays, je ne sais pas, l'Angola par exemple dans le passé, qui était proche de Cuba pour des raisons historiques, pourrait très bien dire c'est un producteur de pétrole, tiens pourrait-on peut-être avec un ou deux pétroliers donner un coup de main à Cuba ? Pas du tout, il y a des menaces américaines claires, donc on s'achemine maintenant vers le moment où les réserves, qui sont celles que Cuba avait, les petites réserves sans doute, qu'on connaît mal avec précision, vont prendre fin. Et là, il y aura plus moyen de se déplacer, plus d'électricité, etc. Donc là, on va entrer dans quelque chose bientôt, hein, vraisemblablement, dans quelques semaines peut-être.
Alors même que les plus âgés des Cubains et des Cubaines que vous rencontrez, ceux qui ont vécu ce qu'on a appelé la période spéciale après 1989, à la chute de l'URSS, lorsque Cuba s'était retrouvé privé de son précieux allié, il y avait eu à ce moment-là aussi beaucoup de pénuries et une situation très difficile. Mais les gens vous disent que ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est pire que la période spéciale.
Dans ce qu'on appelait donc la période spéciale, qui dure plusieurs années à partir de la fin de l'URSS, déjà, il y a tout un système économique qui s'effondre et les conséquences, elles étaient extrêmement graves. Il y avait des pénuries de nourriture en particulier qui étaient d'une gravité extrême. Ils se sont quand même passés par quelque chose qui était déjà assez carabiné à Cuba à cette époque-là. Mais on pourrait dire, après tout, avec le temps, les gens oublient ou quelque chose comme ça. C'était mieux avant, mais il y a aussi c'est pire aujourd'hui. Là, en réalité, je crois que ce dont il est question, c'est qu'il y avait une structure politique qui conserver la confiance d'une grande partie des habitants de Cuba à cette époque-là. Ça allait mal, mais de tous les témoignages que j'ai recueillis, notamment les gens évidemment un peu âgés qui l'ont vécu en étant lucides sur la situation générale, l'idée dominante c'était on traverse une sale période, mais peut-être ça ira mieux demain, etc. Là aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est l'idée que tout est désespéré. Désespéré parce que le pouvoir n'a pas, le pouvoir cubain a perdu toute forme de crédit de ce point de vue-là. Les conditions de vie sont abominables et il y a donc, vous l'avez mentionné, quasiment un quart de la population qui a quitté l'île. C'est une saignée d'ampleur historique en l'espace de 4 ou 5 ans. C'est complètement fou. Donc cette société est aussi complètement désorganisée. Les forces de production, comme on dit, ou les gens en âge de pouvoir partir, sont déjà partis. Il y a plein d'autres qui veulent partir aussi. Donc, on est dans une période différente aussi pour cette raison-là.
Cette absence, elle est extrêmement sensible. Il y a les autoroutes et les routes, les rues vides. Il y a les maisons aux volets fermés. Il y a la campagne en friche. Les usines abandonnées. C'est quelque chose qui frappe. Et cette question de l'exil, elle est aussi dans tous les récits. Tout le monde a une partie de la famille qui est partie. Il y a cette jeune fille qui vous dit, ce père plutôt qui vous raconte comment sa fille est partie en lui montrant sa photo de classe et en disant « mais je suis la dernière, il n'y a plus personne que je connais ici ».
Cet exemple de quelqu'un qui montre sa photo de classe, c'est fou parce que c'est pas un seul exemple, c'est extrêmement répandu. On a l'impression de trouver les derniers survivants à certains moments, entre guillemets survivants, tant est grande l'ampleur de ceux qui sont du mouvement de ceux qui sont partis et de ceux qui ont l'intention de partir aussi. Donc ça, quand on a décidé de faire ce reportage, la raison pour laquelle on l'a fait à vélo, ce qui paraît stupidement pittoresque au premier regard, c'est parce que on se disait il faut absolument aller dans les endroits où au fond on n'irait pas spontanément. Le vélo permet ça, d'aller dans les campagnes hors des routes les plus fréquentées, qui d'ailleurs sont vides, comme vous l'avez dit. C'est quand même assez fou, parce que sur ces routes où il y a pratiquement plus de circulation, pour beaucoup, il y a des médecins qui continuent à travailler, et alors ils montrent leur blouse blanche pour signaler quand ils sortent de leur car, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de trouver de l'essence ou de payer un véhicule ou de l'essence. Donc ils font du stop pour aller travailler et revenir chez eux, et ils agitent leur blouse pour qu'on les prenne quand il y a un camion qui passe ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une première observation, cette espèce d'impact frontal sur la population et son mode de vie. Mais dans les campagnes, en allant justement à vélo sur les petites routes, les petits chemins, en allant dans tous les zones rurales les plus reculées, ce qui est encore plus frappant, c'est de voir quasiment une population de vieillards dont on voit bien qu'ils survivent par extrêmement difficilement, d'une part, et deuxièmement, cette campagne qui est parsemée de tous les projets industriels, agroalimentaires, les usines de canne à sucre. Rappelons que Cuba était longtemps le premier producteur mondial de sucre. Tout ceci est complètement ravagé. Et donc, la destruction absolue de l'outil industriel, de cette espèce de ce qui s'est pas produit dans les 4 dernières années, ça c'est un long processus, ça serre le cœur, parce qu'évidemment, on comprend le manque d'espoir des Cubains qui vivent dans cet environnement-là, et la raison pour laquelle ils s'en vont, c'est pas purement conjoncturel, parce que ça va mal depuis 4 ans, c'est aussi un long processus de dégradation.
Vous parliez du secteur de la canne à sucre. Vous arrivez au moment de la safra, ce qui signifie la récolte en espagnol, qui est un moment important, évidemment, puisque c'est le moment où on va avoir une estimation de ce que va représenter la récolte de l'année. En l'occurrence, 2025 n'est pas une année très, très concluante. Les ouvriers agricoles que vous rencontrez se plaignent de manquer d'intrants pour semer, mais aussi d'outils et de moyens pour réparer les machines. Et il y a ces moissonneuses qui datent de l'époque de Che Guevara, des moissonneuses qui étaient à l'époque surnommées les Libertadoras, qui allaient libérer les ouvriers agricoles du travail. Et elles sont dans un état... certaines fonctionnent encore, pourtant.
Oui, certaines fonctionnent encore, mais on est aussi dans un périmètre de destruction qui dépasse l'imagination. Cuba a été donc le premier producteur mondial de sucre. Il y a une époque où l'île espérait, enfin c'était le projet de en 1970 de produire 10 millions de tonnes de sucre. Aujourd'hui, on en est à 170 000. Donc, Cuba n'a même plus assez de sucre pour se nourrir. Les machines qui restent, compte tenu de l'embargo, par ailleurs, américain aussi, il faut le dire, la dégradation générale est de fait de plein de conditions qui se sont accumulées. Mais les dernières machines qui restent, par exemple, illustrent le fait que tout le monde a plus ou moins retapé pendant des décennies les rares machines qu'il y avait, et que tout ça arrive au bout de quelque chose. Donc il en reste quelques-unes, des intrants, il n'y en a pas, donc les cannes sont toutes petites. Moi je comprenais pas pourquoi, j'ai vécu et j'ai travaillé dans plein d'endroits où on récolte de la canne à sucre. Normalement la canne à sucre c'est beaucoup plus grand, là elles sont toutes petites et la récolte commence. Parce qu'il n'y a pas d'intrants, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas tout ce qu'on veut. On pourra toujours dire que c'est bio, mais malheureusement c'est pas le point de vue qu'ils ont. Parce que l'industrie derrière de transformation est elle aussi complètement sur le flanc. Ils en sont au point où ils se demandent si même la production de rhum, c'est important pour l'identité nationale et les rares joies qui sont autorisées, mais aussi parce que c'est une source de devise par l'exportation, ils se demandent s'il y aura assez de canne à sucre pour faire du rhum. C'est en tout cas une question. Donc, il n'y a pas un secteur qu'on touche qui soit pas affecté par une sorte de... Vous voyez, on approche de quelque chose qui est la fin d'un cycle, faut bien le dire.
Vous évoquiez tout à l'heure ces médecins qui font du stop sur la route dans l'espoir d'être pris pour aller travailler. Vous rencontrez à La Havane une jeune fille qui s'appelle Alicia. Alors, bon, tous les prénoms sont des noms d'emprunt, vous le précisez. Elle est issue d'une famille de médecins. Mais elle est aujourd'hui, elle doit cumuler ses études avec un emploi. La vie est très dure. Elle est clairement dans une situation de pauvreté. Son paquet de cigarettes, il représente un mois de salaire de retraite de son grand-père. Et elle est très en colère. Elle vous dit, il faut que quelque chose change. Ils sont nombreux, les jeunes cubains, à vous dire ça.
Moi, j'étais estomaqué. Il fallait prendre tout un certain nombre de précautions pour se parler calmement, sans oreille indiscrète, ce qui n'est pas simple. Mais j'étais estomaqué par le fait d'entendre si souvent, par des gens au fond, de milieux différents, etc., ce genre de choses consistant à dire « Ah, si seulement on pouvait nous libérer, que quelque chose change à n'importe quel prix, y compris si les Américains nous envahissent. » Et d'ailleurs, les gens rient, en fait, parce qu'ils disent « Ah, si les Américains nous envahissaient, tout changerait, ce serait merveilleux. » Mais en même temps, on se doute bien qu'ils vont pas nous envahir. Qu'est-ce qu'ils viendraient faire ici? Donc, c'est d'humour et de lucidité cubaine un peu désespérée qui a son charme et qui témoigne aussi de la profondeur du désarroi. Néanmoins, que des gens puissent dire aussi ouvertement, mais discrètement, si vous voyez ce que je veux dire, pas en public, disons, des choses comme ça. Moi, pour moi, ça constitue une surprise. Je me figurais que ce serait une sorte de parole marginale, que les gens les plus virulents contre le pouvoir seraient déjà partis et s'exprimeraient comme ça, mais plutôt en Floride, aux États-Unis. Non, là, c'est vraiment à Cuba. Et tous les gens qui ont moins de 30 ou 40 ans sont à peu près tous comme ça. Ils n'en peuvent plus.
Ce qu'elle vous raconte, et d'ailleurs c'est aussi une scène, des scènes auxquelles vous assistez à la terrasse d'un café par exemple, c'est qu'elle est aussi en désaccord avec ses parents ou les aînés de sa génération, chez qui on trouve encore un discours de fierté sur la révolution, une parole qui peut chercher aussi des excuses à ce qui arrive à Cuba et à leurs dirigeants. C'est par exemple le cas de cette grand-mère, Sarah Bianco, et là on retourne dans la campagne que vous rencontrez. Les conditions de vie sont extrêmement difficiles, mais il y a cette fierté qui est toujours là.
Il y a cette fierté, et puis il y a aussi certains des acquis de la Révolution qui continuent à être chers aux gens qui sont les plus âgés, disons. Les acquis de la Révolution, c'est... toutes les notions autour de l'économie, etc., c'est un peu difficile à défendre, mais tout ce qui est autour de ce qu'on appelle la dignité, ça continue à compter pour quelqu'un comme cette personne, Sarah Bianco, qui dit, moi, elle est suffisamment âgée, elle a plus de 80 ans, pour avoir vécu l'ancien régime et l'arrivée au pouvoir du régime castriste, et elle dit, je suis devenu quelqu'un dont, sur le principe de l'égalité entre tous, qui comptait dans ce pays où avant je n'étais rien. Et ça, c'est vrai que ça reste cher au cœur d'une partie de la population, mais alors pour le coup qui est âgée. Et ceux qui sont mécaniquement fidèles au pouvoir, c'est un petit peu, je pense, pour ceux qui ont vécu la fin de l'URSS, j'imagine que ça devait être pareil. Il y a des gens qui, bon, voilà, restent fidèles à leurs idées, en quelque sorte, ou suivent une voie qu'ils ont empruntée pendant des décennies sans pouvoir en dévier. Mais tous ceux qui sont un peu plus jeunes, franchement, j'en ai pas vu beaucoup qui défendaient. J'en ai vu aucun, à vrai dire. Et pourtant, on a parlé à énormément de gens. On est resté 2 semaines, on a parlé à des dizaines de gens. J'ai jamais entendu d'éloges du pouvoir tissés par des gens de moins de 50 ans, enfin.
Ce qui crée des conflits de génération.
Ça gueule beaucoup dans les familles, oui.
Vous l'avez évoqué, la surveillance est massive, intense. Il y a un maillage qui est exercé par les forces de sécurité sur la population, et vous vous en rendez compte justement en partant dans la campagne. Il n'y a personne, mais très vite, à chaque fois que vous arrivez quelque part, que vous discutez avec quelqu'un, vous vous faites repérer. Il y a toujours quelqu'un, un type pour arriver et couper court à la conversation. Qu'est-ce que ça dit d'un pouvoir qui est aussi sur le qui-vive, et notamment depuis la grande révolte de juillet 2021?
Je pense que le degré de surveillance qui repose sur un maillage effectivement de tous les services de sécurité divers et variés, il existait, mais il devait être peut-être il y a peut-être une dizaine d'années par exemple un petit peu moins présent, un petit peu moins visible, un peu moins le pied sur la nuque de tout le monde. Là désormais, depuis 2021, quand il y a ce moment de quasi insurrectionnel, mais qui a été étouffé dans l'œuf très vite, en réalité, comparé à beaucoup d'autres situations de manifestations massives dans des pays, ça paraît pas si important ce qui s'est produit à Cuba, mais ça fait extrêmement peur au pouvoir, qui depuis, réalisant que la population par ailleurs a des raisons d'être mécontente et même de devenir folle, les gens emploient ce terme fréquemment, a renforcé de façon importante la présence et tout ce qu'on veut. La peur de se faire embarquer pour un rien en ayant juste parlé avec un étranger, elle est réelle. Le fait que désormais on puisse, en tant qu'étranger, circuler justement, alors c'est là le génie du vélo. Quand on arrive quelque part, faut bien qu'on parle à quelqu'un et ça se passe mieux. Mais je pense que ce régime est sur les dents et que la surveillance dit assez la peur qu'a le pouvoir de voir se manifester la population, de voir se reproduire des manifestations.
Merci Jean-Philippe Rémy. Votre long reportage en trois volets, Cuba, l'île à la dérive, accompagné des photos de Lucien Lung, c'est à retrouver donc sur le site du journal Le Monde. Je les recommande chaleureusement. Merci beaucoup d'être venu dans le Retour de terrain.
Cambiar algunas piezas y ahora no se mueve, no. Hace mucho calor en la vieja Habana, la gente espera algo pero aquí no pasa nada. Un tipo gritó, sálvese quien pueda, cada día que pasa sube más la marea. Felipito se fue a los Estados Unidos, allí pasa frío y aquí estaba aburrido. En la mesa del domingo hay dos sillas vacías, están a 90 millas de la mía. Pero entiéndelo, brother, tómalo como quieras. La política no cabe en la azucarera, la política no cabe en la azucarera. Obrero me ve, me llama artista y muy noblemente me suma su estatura. Anda traficando con dinero de turista. Él tiene cuatro hijos y la vida está muy dura. Pero entiéndeme, brother, él dijo, tómalo como quieras. La política no cabe en la azucarera. La política no cabe en la azucarera.
Il fait très chaud dans la vieille ville de la Havane. Les gens attendent quelque chose, mais ici, il ne se passe rien. La Politica no cabe en la azucarera, un titre sorti en 2019 du chanteur cubain Carlos Varela, exilé en Espagne. Vous écoutez Culture Monde, seconde partie de notre émission Actu du vendredi, direction à présent le Japon.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Durant cette campagne, j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux jeunes. Beaucoup d'entre eux verront le Japon du 22e siècle. À ce moment-là, je souhaite que le Japon soit un pays sûr et prospère, un phare dans la région Indo-Pacifique, une nation respectée et digne de confiance, un pays de liberté et de démocratie, afin que les jeunes soient fiers d'y être nés et puissent affirmer avec confiance que l'avenir est prometteur. Nous bâtirons ce Japon et le transmettrons aux générations futures.
Une victoire éclatante, historique même. Jamais depuis sa création en 1955, le Parti libéral démocrate, le PLD, n'avait obtenu autant de sièges à la Chambre des représentants à l'issue des législatives qui se tenaient le 9 février. Et c'est donc avec une solide majorité de 316 sièges et une légitimité nouvelle que la première ministre Sanae Takaishi va pouvoir appliquer son programme. À ses électeurs, elle a promis d'améliorer le pouvoir d'achat, de limiter l'immigration et de renforcer c'est la défense du pays. Quelles transformations et quelles réformes cela augure-t-il pour le Japon dans les mois et les années à venir? On en discute avec nos invités. Guy Bourg de la Motte, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes professeur en sciences politiques au département Japon de l'INALCO, autrice de Le Japon, un leader discret, c'est paru aux éditions Erol. Et à vos côtés, César Castelvi, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue également. Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université Paris-Cité et membre du CRCAO, un laboratoire spécialisé sur le Japon. Vous avez dirigé avec Arnaud Griveaux et Sandra Schall l'ouvrage Une société qui fait briller les femmes, point d'interrogation, les Japonaises au travail dans le Japon contemporain. Et ça, c'est à paraître aux éditions Hermann. Et comme chaque vendredi, une discussion co-animée avec Marc Semo. Et on commence avec vous, Marc.
Merci Mélanie. Alors oui, une victoire électorale au Japon du PLD, le Parti libéral-démocrate, c'est banal. Il dirige quasiment sans interruption le pays depuis 1950. Mais là, le 8 février, il a pour la première fois depuis 40 ans dépassé les 300 sièges sur 465 à l'Assemblée, avec le triomphe de la première ministre Sanae Takaichi, qui avait fait le pari d'élection anticipée pour s'assurer d'une majorité alors que son parti était à la peine. La Sanae Mania qui déferle sur le Japon, c'est un quasi-plébiscite en faveur de cette dame de fer. C'est aussi le signe d'une mutation qu'elle va probablement encore accélérer. À l'image de son mentor, Shinzo Abe, le premier ministre assassiné en juillet 2022, elle personnalise à fond la politique. Comme son défunt mentor, elle mêle interventionnisme en économie, nationalisme, sécurité nationale et appelle à renforcer les capacités militaires de l'archipel, voire à changer une constitution qu'elle juge par trop pacifiste. Ce parler fort plaît aux jeunes urbains, qui ne s'offusque guère de sa vision plutôt révisionniste sur les crimes du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle n'hésite pas non plus à déclarer qu'une attaque chinoise sur Taïwan serait, je cite, « une menace existentielle pour le Japon qui ne pourrait pas ne pas réagir par la force ». Elle a créé ainsi une crise avec Pékin, mais elle n'a pas cédé. Pour toutes ces raisons, sa victoire électorale pourrait donc être un tournant géostratégique dans un Extrême-Orient devenu la priorité de Washington pour contenir la grande puissance rivale en renforçant les liens avec ses alliés régionaux. Donald Trump avait d'excellentes relations avec Shinzo Abe. Elles le sont tout autant avec Sanae Takaichi, dont la politique pourrait se résumer avec le très trumpien slogan « Make Japan Great Again ».
Merci beaucoup Marc. On va peut-être revenir sur cette comparaison qui court de la mode. Je voulais qu'on commence par peut-être rappeler que c'est tout le paradoxe. Le PLD était déjà au pouvoir, il y reste. En même temps, il était sérieusement empêtré dans des scandales de corruption, notamment il y a un an, son ancien dirigeant Shigeru Ishiba était très impopulaire. Dans quelle mesure le retour de force auquel on vient d'assister du PLD est-il à mettre au crédit de Sanae Takaichi ?
Totalement. Totalement. C'est-à-dire, c'est vraiment sa popularité qui se traduit par ce résultat extraordinaire. Bon, le scandale de corruption, effectivement, alors plus que de la corruption, c'est de la fraude fiscale qui était encouragée par le parti, donc d'où l'opprobre dont souffrait le parti. Elle a adopté quelques mesures, disons, un petit peu prudentielles pour éviter que ça ne se reproduise. Les factions ont été dissoutes et elles ont été considérées comme les principales, disons, causes de ces problèmes.
Vous pouvez nous redire ce que c'était, ce que ces factions?
Alors les factions sont, il y en a plus qu'une qui subsiste et sont en fait des sous-groupes à l'intérieur du parti. Nos partis ont en fait des sous-groupes à peu près équivalents. Enfin, quand on pense, le Parti socialiste était emblématique de ça à un moment donné. Enfin, quand il était plus étendu, il y avait des chefs et puis il y avait des
courants
plus jeunes autour et donc des courants. Mais c'était plus formalisé au Japon, c'était plus organisé et donc les factions avaient plusieurs vocations. Fournir de l'argent, rassembler de l'argent, former les plus jeunes, faire circuler l'information, et puis promouvoir, c'est-à-dire avoir un dialogue avec le Premier ministre, et les factions les plus importantes avaient davantage de postes.
Marc Semo ?
Oui, alors, au niveau de la rupture qu'elle représente, elle est, c'est aussi parce que c'est une femme, ce qui quand même est exceptionnel, et aussi parce qu'elle n'appartient pas à une dynastie politique. Quelque part, c'est une outsider dans ce monde extrêmement borduré, extrêmement finalement figé de la politique japonaise.
Guy Bourdelamotte, et puis après César Castelvie.
Et je pense que c'est pour ça que la population se retrouve beaucoup en elle. C'est qu'elle elle est originaire d'un milieu tout à fait modeste, hein, plutôt classe moyenne défavorisée, enfin basse. Elle est donc entrée en politique, c'est une self-made woman. Elle a eu un mentor, mais enfin, elle est vraiment montée par elle-même. En effet, pas une dynastie politique, ce qui est très exceptionnel dans le parti, en fait. Et puis, le fait qu'elle soit une femme, et le fait qu'elle a été en quelque sorte choisie, parce que c'est eux qui ont été cruciaux, par cette dernière faction qui subsiste encore aujourd'hui, et qui est plus conservatrice. C'est l'aile, en fait, plus conservatrice du parti, qui a fait la différence dans son élection, elle, à la tête du parti. Donc, le fait qu'elle soit une femme, en fait, a été considéré comme un facteur anodin, neutre pour les conservateurs. Ce que je trouve, pour le coup...
Elle a un côté Thatcher.
Elle a un côté Thatcher de ce point de vue-là, exactement.
Et en même temps, elle n'est pas complètement nouvelle en politique. Vous le disiez, elle n'est pas issue d'une dynastie, mais elle est ministre depuis très longtemps. Enfin, elle a eu plusieurs postes de ministre dans différents gouvernements, notamment sous Shinzo Abe. Je crois que son premier poste, c'était en 1998. Alors, comment expliquer, César Castelvie, l'image de nouveauté, de fraîcheur qu'elle a réussi à incarner, alors même qu'elle est quand même dans le sérail depuis un moment?
Je pense plutôt que c'est une réponse à la situation dans laquelle se retrouvait le Parti libéral là depuis l'année dernière. Le scandale, c'est son échec aux élections à la Chambre des conseillers au cours de l'été 2025. Enfin, ça a été dit plusieurs fois ce matin. C'est une victoire de Takaichi Sanae et de fait une victoire du PLD. Mais quand on regarde le soutien dans les sondages d'opinion, il y a un soutien fort vis-à-vis de Takaichi Sanae, et en même temps, lui, le PLD n'a pas le vent en poupe. Donc, c'est la force de ce parti, si vous voulez, c'est d'arriver à surmonter systématiquement la critique. Il y a eu des critiques l'année dernière, un petit parti d'extrême droite qui est arrivé, qui a réussi à faire basculer les tendances, les sujets qui semblaient concerner la population dans sa direction, et la réaction du PLD, c'est d'arriver à faire remonter en son sein la personne qui représente le courant des idées les plus à même de rassurer la population. C'est extrêmement efficace et le PLD arrive toujours à retomber sur ses pattes de cette façon-là.
Alors je ne sais pas si on a encore déjà des études statistiques précises sur l'électorat japonais, qui a voté pour qui, mais la presse rapporte qu'elle aurait eu un succès important auprès de la jeunesse. Comment est-ce que vous l'expliquez? Quels sont les messages, quelles sont les images qui ont pu faire mouche dans la jeunesse?
Alors déjà, la jeunesse, c'est aussi l'endroit où il y a des voix à récupérer, hein, parce que bon, il faut rappeler que les participations aux élections japonaises sont jamais très élevées. Là, elle était un petit peu plus que les dernières élections.
56%,
c'est ça. Voilà, c'est quand même pas très important. Et donc, la jeunesse japonaise... pendant longtemps été considéré comme s'intéressant moins à la politique que les générations précédentes, et en partie, je dis bien, le public visé. Et donc là, sur les messages qui sont envoyés, ce sont des messages plutôt positifs, tournés vers l'avenir, pas trop concrets, hein, parce que concrètement, il y a quand même pas beaucoup de solutions fermes qui peuvent être apportées aux grands défis structurels que connaît le pays, mais un message positif, une personnalité qui a l'air plutôt agréable. Et c'est un peu ça, les limites du discours sur Takaichi Sanae comme dame de fer, qui est un slogan qui est très, très, très repris dans les médias à l'étranger, mais qui, quand on regarde la façon dont elle va se présenter à ce public-là, ressemble plutôt, enfin, selon moi, davantage à une tati qui pourrait être agréable, avec qui pourrait être sympa d'aller prendre un thé. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui va convaincre ou rassurer une partie de cette jeunesse qui va plutôt voter pour une personnalité, une ambiance, que pour des éléments ou un projet très concret.
Guy Bourdelamat.
Alors, disons que bon, le PLD a augmenté, c'est un premier point que je voulais dire. Le PLD a augmenté de 10 points dans les sondages. Donc, il est passé de 30 à 40% de taux de soutien, disons, à la suite des élections. Donc, le pari est gagnant de ce point de vue-là également. C'est-à-dire que, de fait, sa popularité s'est quand même un peu traduite par un soutien au parti. Et en particulier, le deuxième aspect sur lequel le pari a été gagnant, c'est que le petit parti d'extrême droite qui avait émergé aux précédentes élections, donc à la Chambre haute, où le scrutin est différent et où, comme il est plus proportionnel, eh bien, il avait remporté des voix de manière assez qui avait été notée, disons. Et eh bien là, une partie de ces voix a été déviée vers le PLD. Donc en réalité, ce parti d'extrême droite a gagné seulement 2 sièges. Un autre petit parti qui avait également gagné 13 voix lors des précédentes élections, mais qui lui est de centre droit, lui en a gagné une. Et donc en fait, de ces deux partis qui avaient beaucoup gagné en nombre de voix dans les précédentes élections l'année dernière, eh bien, il y a eu un report extrêmement fort, comme annoncé d'ailleurs, vers le PLD. Donc là, de ce point de vue-là, on a un pari gagnant. Et je crois que, je pense quand même qu'il y a une part qui est plus que, disons, simplement, on a parlé de ses sacs à main, etc. Il y a un engouement, de fait, pour la personne qui est un peu superficielle, mais il y a quand même aussi une préoccupation pour les questions de sécurité. Et de fait, face à elle, qui l'autre raison pour laquelle elle a incarné la jeunesse, enfin le renouveau, c'est que face à elle, il y avait des gens qui étaient des dinosaures, hein, vraiment. C'est-à-dire ancien premier ministre, mais il y a 15 ans, et puis le Cometto face à lui, une alliance de deux partis qui étaient déjà alliés dans les années 90. Enfin là, c'était vraiment du réchauffé de leur propre aveu d'ailleurs. Donc ça, c'est un autre aspect, mais sinon, disons, la préoccupation pour les questions de défense, enfin, cette opposition ne la prenait pas du tout en compte et n'y répondait pas, puisque leur seule réponse aux tensions qui montent avec la Chine, et vous avez parlé tout à l'heure des tensions, donc si vous permettez, j'aimerais revenir, Marc, là-dessus. En fait, elle a réitéré tout ce qu'elle a cherché à faire dans ce débat dont on a énormément parlé. Il n'est pas très bien compris, ce débat qui a eu lieu en novembre et qui, de fait, d'ailleurs, assez longtemps après, hein, a abouti à une sanction sur les terres rares, enfin, des restrictions aux exportations de la part de la Chine sur les terres rares. Ça a mis 2 mois hein, pour que cette politique soit mise en œuvre officiellement. Donc quand la Chine se fâche vraiment, elle se fâche souvent assez vite. Donc là, il y a eu un délai, disons, de latence qui est assez significatif à mon avis. En fait, ce qu'a fait Mme Takaichi dans ce débat, où elle était interrogée par l'opposition, un membre de l'opposition qui n'a pas été réélu d'ailleurs, c'était dans quelles circonstances exactement le Japon peut-il faire usage de la force? Et elle a répondu en fait la manière en fait la plus fidèle possible en fait pour essayer de d'expliciter une notion qui est le Japon peut faire usage de la force si sa survie est en péril, dans l'hypothèse où il n'est pas lui-même attaqué directement. Et donc l'opposition voulait savoir cette notion de survie, c'est-à-dire la situation où le Japon peut faire usage de la légitime défense collective, donc il n'est pas lui victime directe, quand est-ce qu'elle s'applique et est-ce que quand on est au sud de Taïwan ça marche aussi? La géographie n'a aucune, disons, n'est pas du tout pertinente en l'espèce puisque c'est une disposition générale, et donc que ce soit au nord ou au sud de Taïwan est sans incidence, et elle a cherché à répondre précisément en disant il est très possible, avec énormément de conditionnels, énormément de précautions, que dans ce cas de figure, le Japon, c'est-à-dire si les États-Unis intervenaient parce que la Chine avait entrepris une attaque contre Taïwan, et bien dans ce cas, si les États-Unis étaient frappés, c'est ça, hein, là, le cas de figure. Donc, ça résulte du dispositif juridique qui est en place depuis 2015. Et en fait, cet épisode a bien montré à quel point l'opposition était ancrée dans un débat qui, somme toute, est daté lui aussi. Daté, et qui paraît plus du tout en phase avec les besoins du Japon pour faire face à une pression qui est constante, et qui prend des formes vraiment tout à fait inattendues. Par exemple, assez récemment, il y avait 2000 bateaux chinois de pêche qui étaient alignés en forme de L au-dessus des côtes japonaises. Et ça, c'est en fait une sorte d'entraînement qui sollicite la population civile avec l'appui des gardes-côtes chinois, dans l'hypothèse où il y aurait un embargo contre Taïwan, et donc pour faire obstacle à des navires américains qui viendraient éventuellement. Donc on est dans une telle, en fait, il y a un degré d'imagination en face qui est déployé, face auquel il faut de fait apporter réponse.
Oui, Marc, c'est moi. Ouais.
Oui, mais justement, à ce sujet, elle reprend... Alors, c'est vrai qu'elle a le côté Tati, etc., mais elle reprend quand même les grands marqueurs de Shinzo Abe.
Oui, absolument.
Que ce soit en matière de sécurité, oui. Que ce soit au niveau du renforcement militaire, que ce soit aussi, d'ailleurs, en économie. Parce que elle reprend cette idée d'une intervention publique dans l'économie, ce qui était quand même assez rare au Japon, avec les Abe Comics, qui à l'époque avaient...
Alors, pour rester un instant sur la question de la défense que vous avez abordée, à la place qu'elle a occupée dans la campagne, et peut-être en particulier chez les jeunes générations, César Castelvi, est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez observé? Peut-être une place nouvelle, peut-être une place plus importante dans le débat public, dans les médias, de cette préoccupation autour des questions de défense? Parce que c'est vrai que souvent on a coutume de dire que c'est plutôt les questions économiques et sociales qui déterminent le vote. Là, quelle a été la part des choses?
Ce qui est certain, c'est qu'il y a un climat d'inquiétude qui est partagé par très importante de la population, peu importe les générations. Hein. Les inquiétudes économiques, c'est une chose, mais les inquiétudes sur le comportement des pays qui entourent le Japon, hein, le Japon entretenant des relations difficiles avec un certain nombre de ces pays, c'est quelque chose qui est perçu, conscientisé plus ou moins par une partie importante de la population, dont la jeunesse. Et donc, je pense que le discours sur l'importance de se réarmer, de se protéger, d'être capable de réagir en cas d'attaque, c'est quelque chose qui, du point de vue de toute une génération de personnes qui n'ont pas connu la guerre et qui ont été éduquées aussi dans une société japonaise qui est plus celle de la deuxième partie du XXe siècle, c'est un discours qui prend davantage et donc arriver en proposant des idées fortes ou en tenant des positions fermes sur ce sujet-là, oui, c'est quelque chose qui trouve écho dans le cœur d'une part de la population plus jeune qu'auparavant, je pense.
Parmi les propositions fermes ou les idées fortes, comme vous dites, il y a cette question centrale, très sensible, très symbolique, enfin plus que symbolique, de la révision de la Constitution et notamment de son article 9 qui consacre la nature pacifique du pays, du Japon, qui a renoncé aux interventions militaires. Elle a clairement dit qu'elle avait l'intention de la réviser, la Constitution, Guy Bourdelamotte.
Oui, mais alors ça, c'est dans le programme du parti depuis 1955, mais le contenu de cette proposition a énormément évolué. En particulier, Abe Shinzo, qui a été un personnage tout à fait fondateur dans la politique japonaise et qui a fait évoluer énormément de choses, sur cette question de la révision constitutionnelle, il a beaucoup fait évoluer la proposition. Et donc, on part, vous voyez, d'un programme qui, dans les années 50, voulait restaurer l'empereur, enfin, voilà, à un programme qui voulait effacer un petit peu le passage de l'occupation, enfin un programme qui est totalement différent dans sa nature. Il faut vraiment bien faire la distinction entre le Japon d'une époque et le Japon de maintenant, qui n'a plus rien à voir, et donc pas jouer dans le jeu justement de la rhétorique chinoise qui consiste à dire qu'il y a un militarisme chinois japonais dont il faut se méfier. Enfin, s'il y a bien une réaction à un militarisme qui est chinois, hein. Sur la Constitution, la proposition là maintenant est de réduire vraiment à son simple minimum la formule, de manière à ce qu'elle soit consensuelle, aussi consensuelle que possible, parce que si les Japonais pour le moment votent donc pour ce parti conservateur, comme vous le disiez, les questions économiques restent la priorité. Là aussi, le PLD était tout simplement plus crédible que l'opposition. Et sur cette question de la Constitution, qui est quand même pas jugée prioritaire, où la population reste très très attachée à ce pacifisme, surtout et très sensible et réticente à une révision de l'article 9, la proposition désormais, c'est de laisser l'article 9, mais d'ajouter dedans une mention de l'existence des forces d'autodéfense, pour que l'existence de cette armée, qui pour le moment n'a pas pu dire son nom parce qu'on était dans une espèce de disons d'ambiguïté à l'égard de la Constitution, c'est-à-dire qu'il y avait un interdit si on s'en tient à la lettre de la Constitution, et puis par interprétation on a réussi à déduire que la légitime défense étant permise, des forces d'autodéfense pouvaient être établies. Donc pour sortir de cette ambiguïté qui d'ailleurs est critiquée, a été critiqué hein, par la Corée du Sud comme par la Chine, qui ont beau jeu de dire donc que le Japon est hypocrite. Enfin voilà, donc introduire ces forces d'autodéfense dans l'article 9 en mettant le Japon, étant donné que la légitime défense donc est permise en vertu de cet article, eh bien le Japon a des forces d'autodéfense qui permettent de défendre le pays.
Donc il s'agirait davantage de se mettre en conformité entre un réel qui existe, voilà, et un texte constitutionnel, ce qui veut dire ce que vous évoquiez l'un et l'autre, la force aussi de l'héritage et de tous les mouvements pacifistes qui sont très forts au Japon, elle reste quand même structurante et il y aurait un risque politique, on peut imaginer, pour le PLD à s'attaquer frontalement, à remettre en cause frontalement cet héritage-là.
Je pense qu'on peut le dire et c'est incarné par le fait que lors de cette très récente élection, ça n'a pas été un sujet très important. Pourtant, ça pourrait être un sujet vraiment clivant avec des partis qui font bataille là-dessus, mais c'est pas là-dessus que les gens discutent. Et d'ailleurs, il n'y avait pas tellement de sujets très clivants. Enfin, on pourrait raconter plein de choses d'ailleurs très intéressantes sur la façon dont on débat entre partis en politique au Japon, quand débat il y a. Mais là, en l'occurrence, Takayuki Sanae, elle a refusé de participer à ce qui ressemble un petit peu à un débat où chaque candidat vient donner ses positions comme ça à la télévision. Donc, le but du jeu, voilà, c'est d'arriver, de proposer une posture, un visage, une ambiance rassurante, sachant qu'au final, je pense quand même que c'est une très forte victoire du PLD, mais une très belle défaite, enfin une très forte défaite de l'opposition. C'est les deux vont ensemble.
Maximo.
Et pour en venir justement toujours à ces thématiques, son révisionnisme, y compris le fait qu'on dit qu'elle ira probablement assez rapidement au sanctuaire des héros morts. Voilà, où il y a aussi des criminels de guerre, donc elle, chose qu'elle reprend de Shinzo Abe. Est-ce que ça, par exemple, ça ne gêne pas, ça ne suscite pas de débat, ou désormais c'est quelque chose sur lequel les Japonais, au niveau des jeunes notamment, ont tourné la page?
Juste avant qu'on passe à ça, si vous permettez, sur la Constitution, il y a quand même un autre aspect très important, qui est que il faut la majorité des deux tiers de chaque chambre pour réviser, plus la majorité de la population par référendum.
Ce que le PLD n'a pas.
Ce que le PLD n'a pas. Et donc il faut un projet qui soit consensuel. Et de toute façon, c'est plutôt un parti consensuel. C'est ça qui rend les choses compliquées pour l'opposition. C'est un parti qui est très social et qui est un parti qui est multiclasse, multiclassiste. Donc de ce point de vue-là, il a une assise extrêmement large. C'est ça qui le rend difficilement délogeable. Alors sur le révisionnisme. Dans le contexte des années 90, il y a une droite dure du parti. Que pour faire simple, on peut appeler révisionniste. Il faut se méfier avec le terme de révisionniste parce que, comme vous savez, révisionnisme, qu'est-ce que ça veut dire ? C'était pas des négationnistes. Il y avait quelques négationnistes, évidemment, enfin des gens pour dire il n'y avait pas de crime, etc. Là, on a vu une droite émerger qui disait attention, comment parle-t-on de nos aînés, l'honneur de la patrie, etc. Et donc, et puis il y avait un mouvement de réécriture de l'histoire pour diminuer de fait dans les manuels là ce qui avait été qualifié de une vision un peu masochiste de l'histoire, c'est-à-dire où le Japon était perçu comme l'agresseur. Alors donc ça c'était un courant dans les années 90 qui de fait était alors Madame Takaichi dans les années 90 ça a été quand même assez jeune hein, donc puisque c'est il y a maintenant 30 ans hein, donc elle émergeait dans ce parti. Elle s'est positionnée à droite de ce parti de manière stratégique. Sa stratégie a réussi puisqu'elle a été soutenue par la droite du parti. Et de fait, si elle s'était positionnée à gauche, elle n'aurait pas réussi de la même manière. À gauche, c'est bien que les hommes soient de gauche, hein, ça marche bien, comme ça ils sont libéraux, etc. Une femme, c'est beaucoup mieux qu'elle se positionne à droite stratégiquement pour réussir. Mais ce qu'elle a fait, ça a marché. Là, maintenant, si vous voulez, avec Abe Shinzo, justement, et j'y faisais allusion d'ailleurs, il y a eu un travail qui a été fait en réalité. Et il y a eu un travail de réconciliation, il y a eu des discours sur l'histoire en Australie, aux États-Unis, le discours des années pour les 70 ans de la Deuxième Guerre mondiale, etc., qui sont des discours, évidemment, on peut voir le vase à moitié plein ou à moitié vide, mais qui s'adressent à la fois à la population japonaise et à l'opinion internationale, et qui trouvent finalement un terrain compatible, un terrain qui convienne à l'ensemble, y compris à ce parti libéral-démocrate et à sa droite conservatrice. Et on n'a plus vu de déclaration sur l'histoire. Et donc, la qualifier dans ce contexte de révisionniste, ça me paraît très excessif. Alors, est-ce qu'elle ira ou non Yasukuni ? Elle avait dit avant d'être élue C'était avant, évidemment, cette victoire massive, qu'elle irait peut-être. Mais ça, donc, c'était l'année dernière. Bon, en définitive, elle n'y a pas été. Et puis, là, est-ce qu'elle ira? Si vous voulez, il y a déjà des problèmes avec la Chine. Elle, tout en étant présentée comme étant d'une droite dure, etc., elle n'a pas du tout cherché à envenimer les choses avec la Chine depuis qu'elle est au pouvoir. La déclaration sur Taïwan a été un accident, en fait. Elle n'a pas arrêté de dire, au contraire, et depuis encore, qu'elle était ouverte à un dialogue avec la Chine. Donc, elle veut une augmentation, en revanche, des budgets de défense. Le Yasukuni, est-ce que dans ce contexte, y aller, c'est une bonne idée ou pas? À mon avis, non, ce n'est pas une bonne idée. Ensuite, il faut quand même rappeler sur le Yasukuni qu'il y a 2 millions de morts qui sont honorés dedans. Donc, les 13 criminels de guerre, c'est, du point de vue de beaucoup de Japonais, là aussi, un petit peu, il y a les familles encore de personnes décédées, etc.
Dans le temps qui nous reste, je voulais qu'on aborde aussi les projets qu'elle a promis sur la question économique et sociale. Les Japonais et Japonaises sont préoccupés par la baisse de leur pouvoir d'achat, par des perspectives d'avenir qui s'assombrissent, même si on parle quand même d'un pays très prospère. Je pense à notre première partie sur Cuba. César Castelvi, ce choc de confiance, entre guillemets, je reprends ces termes, qu'elle a proposé pour les ménages, fait de baisse d'impôts pour les ménages, pour les entreprises, à quel prix peut-il avoir lieu? Autrement dit, est-ce qu'il faut s'attendre dans les mois à venir à des baisses de budget sur des services publics pour financer ces baisses d'impôts?
Mais c'est à l'image de ces élections, c'est-à-dire que le sujet a été abordé avant, notamment la baisse, la diminution de la taxe sur la consommation comme idée pour alléger ou améliorer les finances des ménages. Mais il faut rappeler que ça n'était pas la seule en fait à proposer cet élément-là, hein, et que durant le cœur de l'élection, ça n'a pas été non plus un sujet décrit ou expliqué avec des éléments extrêmement concrets. D'ailleurs, c'est un petit peu la fragilité pour la suite, hein, sur la réaction notamment des marchés ou des investisseurs. Le sujet a été évoqué, et si c'est véritablement mis en place, comment est-ce que ça va être financé? Quels effets ça va avoir? Ça, pour l'instant, il n'y a pas d'éléments très très concrets qui sont donnés.
Quand on promet des baisses d'impôts, même si on n'annonce pas des chiffres, même si on ne dit pas précisément sur quelle taxe précisément cela va porter, on est quand même attendu, j'imagine, au tournant sur ce sujet-là, sachant que le pays est aussi très endetté, qu'il fait face au vieillissement de sa population. Ces marges de manœuvre, il y en a certainement, j'imagine, Guy Bourdelamotte, mais comment vous les voyez?
Là, pour le moment, effectivement, on se pose la question du financement. Il a été annoncé qu'il n'y aurait pas de nouvelles obligations qui seraient émises. Et pour le moment, la part de la charge de la dette est plutôt en diminution. Donc l'espoir est de pouvoir conserver cette tendance, et l'idée est qu'il faut essayer de consolider une croissance qui repart, et que de fait, dans un contexte de baisse démographique, c'est moins facile de faire repartir une économie. Mais elle veut investir stratégiquement, dit-elle, et donc plutôt non pas avoir une politique en fait de dépenses sociales à tout craint, mais viser sur des secteurs qui sont productifs, et en particulier sur l'intelligence artificielle. Et c'est là que ça rencontre la défense, en fait, parce que la défense, dans laquelle elle veut investir aussi, peut fournir une partie de cette croissance, dans la mesure où beaucoup de technologies sont à double usage. Et beaucoup d'entreprises sont en fait des conglomérats qui produisent des tas de choses pour l'industrie civile. Et puis en même temps, de fait, Mitsubishi, Sumitomo, etc. ont une activité également, une branche défense.
Il y a un autre point aussi qui était, je crois, au cœur des discussions, c'est la question de la politique migratoire. Elle a promis quelque chose, une posture très restrictive, et c'est pas nouveau. Je pense pas que ce soit une rupture en la matière. Et en même temps, il y a ce paradoxe qui est que le Japon a besoin de main d'œuvre. Il y a ce vieillissement de la population qu'on vient d'évoquer. Est-ce qu'elle peut vraiment se permettre de réduire encore plus la politique migratoire? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un décalage entre ce qui est dit et ce qui est fait?
Je pense certainement, puisque elle est quand même arrivée là à l'automne, ça fait quelques mois, avec le même type de discours au moment de sa victoire au sein de l'élection interne du parti. Et de fait, il s'est pas passé de choses très concrètes sur ce sujet-là, parce que là, c'est vraiment extrêmement difficile. Les inquiétudes d'une partie de la population sont liées à ça, une présence beaucoup plus visible des étrangers sur le territoire japonais. Il faut pour le PLD notamment montrer que le parti a une position sur le sujet, et dans les faits il y a la situation qui est telle qu'elle est. On a besoin, la population est plus suffisamment importante pour faire marcher l'économie. Il faut faire venir des gens qui viennent travailler dans la restauration, les usines, les services. Et de toute façon, il ne faut pas oublier que ce sont des travailleurs qui n'ont presque jamais vocation à rester très longtemps au Japon. Il y a une rotation qui est faite, en tout cas pour les travailleurs les moins qualifiés. Donc, il faut à la fois avoir un discours rassurant, dire qu'on va faire quelque chose, et dans les faits, ne pas venir trop contraindre notamment les dirigeants d'entreprises qui ont besoin de cette main-d'œuvre. C'est très dur.
Ibor de la Motte ?
Oui, il y a plusieurs volets en fait. Il y a les touristes, beaucoup de touristes, 30 millions de touristes d'un coup. Ça, il y a une augmentation rapide avec la baisse du yen. Bon, les touristes sont pas, il faut créer des infrastructures, etc. Donc le Japon va mettre en place une taxe comme font les Canadiens, les Européens, les Anglais maintenant, l'équivalent de l'ESTA, mais beaucoup moins élevé d'ailleurs sur les touristes. Bon, pour financer des infrastructures. Ça, c'est une première manière, vous voyez, de faire plaisir aux gens qui trouvent qu'il y a trop de touristes qui font n'importe quoi. Ensuite, il y a les investissements. Les investissements, il y a la question de où on laisse des étrangers investir, etc. Dans quelle mesure est-ce qu'il ne faut pas restreindre certains investissements ? Le Japon n'ayant pas une culture stratégique elle est récente, elle se reconstruit, elle se construit, mais enfin, il n'y a pas de réglementation des investissements autour de centrales nucléaires, d'aéroports, autour de bases, etc. Et donc, est-ce qu'il faut ou non limiter ? Ensuite, il y a toute une catégorie de, en fait, millionnaires chinois qui investissent au Japon. Ils achètent à la faveur de ce yen bas des appartements à Tokyo, et puis leurs enfants vont à l'université au Japon où ils reçoivent une excellente éducation, etc. Donc là, il y a un problème d'évincement des primo-accédants. Donc là aussi, est-ce qu'il faut restreindre ? Ça, c'est compliqué. Là, ils ont décidé de laisser de côté ce thème-là pour le moment. Et ensuite, la main-d'œuvre, c'est quand même une réforme phare de Shinzo Abe. De fait, comme le disait César...
Dans quel sens ?
Eh bien, dans le sens où c'est lui qui l'a fait adopter.
Non, mais je veux dire d'ouverture ou de fermeture ?
Alors, eh bien, d'ouverture limitée. Et donc, c'est là qu'il est très probable qu'on reste sur ce phénomène-là. Les étrangers viennent pour 5 ans. Ils n'ont pas vocation, en principe, à rester, sauf s'ils se sont intégrés. Et on voit déjà, et donc ça, c'est un bon compromis, cette réforme. À nouveau, un bon compromis entre les besoins et la capacité d'accueil de la population. On voit déjà le discours des partis extrêmes se modifier. Il n'y en a plus qu'un qui est resté aussi xénophobe. Il a perdu des sièges. Et le Sanseto, qui était très, très, très anti-immigré, lui, il dit déjà que maintenant, les immigrés qui s'intègrent, etc., du moment qu'ils restent pas longtemps, ça va. C'est le dispositif en place. Donc, le PLD, là, de ce point de vue-là, a les mains libres.
Why?
trois musiciennes japonaises forment le groupe Itsujibun Gaku. J'espère que ma prononciation est correcte. Leur dernier album est sorti en 2025 et Mille Days est en est l'un des extraits. Merci beaucoup à nos deux invités. Guy Bourdelamotte, je renvoie vers votre ouvrage Le Japon, un leader discret, c'est paru aux éditions Erol. Merci beaucoup César Castelvi. Alors ça, c'est à paraître et donc à guetter l'ouvrage collectif que vous avez co-dirigé, une société qui fait briller les femmes, point d'interrogation, les japonaises au travail dans le Japon contemporain, aux éditions Hermann. Merci beaucoup Marc Semo, on se retrouve la semaine prochaine. Et lundi, c'est Julie Gacon que vous retrouvez pour une série consacrée aux enjeux de reconstruction après-guerre. Il sera question de Gaza, où les Palestiniens semblent d'ores et déjà écartés du processus. Nous irons également en Syrie, où les chantiers peinent à démarrer malgré les promesses, avec ensuite un retour au Mali, 10 ans après la restauration des mausolées de Tombouctou, et enfin dans la ville de Mostar en Bosnie, une ville à reconstruire, une ville reconstruite mais une mémoire en ruine. Et dans un instant, les Midi de Culture.